Le loup Cervier triompha donc sur tous les points. L'acte de société fut signé vers 4h30. Le grand Cointet offrit galamment à Madame Séchard 6 douzaines de couverts affilés et un beau châle ternaud, en manière d'épingle, pour lui faire oublier les éclats de la discussion, dit-il. À peine les doubles étaient-ils échangés, à peine Cachan avait-il fini de remettre à Petit Claud les décharges et les pièces, ainsi que les 3 terribles effets fabriqués par Lucien, que la voix de Kolb retentit dans l'escalier, après le bruit assourdissant d'un camion du bureau des messageries qui s'arrêta devant la porte. « mon dame, 15 000 francs » cria-t-il. « En foyer de boîtier, en frère Jean par Ménessier Lucien. 15 000 francs ?» s'écria Ève en levant les bras. « Oui, madame, » dit le facteur en se présentant. « 15 000 francs apportés par la diligence de Bordeaux, qui en avait sa charge, allez. J'ai là 2 hommes en bas qui montent les sacs. Ça vous est expédié par monsieur Lucien Chardon de Rubempré. Je vous monte un petit sac de peau dans lequel il y a pour vous 500 francs en or et vraisemblablement une lettre. » Ève crut rêver en lisant la lettre suivante. « Ma chère sœur, voici 15 000 francs. Au lieu de me tuer, j'ai vendu ma vie. Je ne m'appartiens plus. Je suis le secrétaire d'un diplomate espagnol. Je recommence une existence affreuse. Peut-être aurait-il mieux valu me noyer. Adieu. David sera libre et avec 4 000 francs, il pourra sans doute acheter une petite papeterie et faire fortune. Ne pensez plus, je le veux, à votre pauvre frère, Lucien. » « Il est dit, » s'écria Madame Chardon, qui vint voir entasser les sacs, « que mon pauvre fils sera toujours fatal, comme il l'écrivait, même en faisant le bien. »« Nous l'avons échappé belle, » s'écria le grand Cointet quand il fut sur la place du Mûrier. Une heure plus tard, les reflets de cet argent auraient éclairé l'acte et notre homme se serait effrayé. Dans 3 mois, comme il nous l'a promis, nous saurons à quoi nous en tenir. Le soir, à 7 heures, Cérizier acheta l'imprimerie et la paya, en gardant à sa charge le loyer du dernier trimestre. Le lendemain, Ève avait remis 40 000 francs au receveur général pour faire acheter, au nom de son mari, 2 500 francs de rente. Puis elle écrivit à son beau-père de lui trouver à Marsac une petite propriété de 10 000 francs pour y asseoir sa fortune personnelle. Le plan du grand Cointet était d'une simplicité formidable. Du premier abord, il jugea le collage en cuve impossible. L'adjonction de matière végétale, peu coûteuse à la pâte de chiffon, lui parut le vrai, le seul moyen de fortune. Il se proposa donc de regarder comme rien le beau marché de la pâte et de tenir énormément au collage en cuve. Voici pourquoi. La fabrication d'Angoulême s'occupait alors presque uniquement des papiers à écrire dits écus, poulets, écoliers, coquilles, qui naturellement sont tous collés. Ce fut longtemps la gloire de la papeterie d'Angoulême. Ainsi, la spécialité monopolisée par les fabricants d'Angoulême depuis de longues années donnait gain de cause à l'exigence de Cointet. Et le papier collé, comme on va le voir, n'entrait pour rien dans sa spéculation. La fourniture des papiers à écrire est excessivement bornée, tandis que celle des papiers d'impression non collés est presque sans limite. Dans le voyage qu'il fit à Paris pour y prendre le brevet à son nom, le grand Cointet pensait à conclure des affaires qui détermineraient de grands changements dans son mode de fabrication. Logé chez Mitivier, Cointet lui donna les instructions pour enlever, dans l'espace d'un an, la fourniture des journaux aux papetiers qu'il exploitait, en baissant le prix de la rame à un taux auquel nulle fabrique ne pouvait arriver, et promettant à chaque journal un blanc et des qualités supérieures aux plus belles sortes employées jusqu'alors. Comme les marchés des journaux sont à terme, il fallait une certaine période de travaux souterrains avec les administrations pour arriver à réaliser ce monopole. Mais Cointet calcula qu'il aurait le temps de se défaire de ses chars, pendant que Métivier obtiendrait les traités avec les principaux journaux de Paris, dont la consommation s'élevait alors à 200 rames par jour. Cointet intéressa naturellement Métivier, dans une proportion déterminée, à ses fournitures, afin d'avoir un représentant habile sur la place de Paris et ne pas y perdre du temps en voyage. La fortune de Métivier, l'une des plus considérables du commerce de la papeterie, a eu cette affaire pour origine. Pendant 10 ans, il eut, sans concurrence possible, la fourniture des journaux de Paris. Tranquille sur ses débouchés futurs, le grand Cointet revint à Angoulême, assez à temps pour assister au mariage de Petit Claud, dont l'étude était vendue, et qui attendait la nomination de son successeur pour prendre la place de M. Milot, promise au protégé de la comtesse Châtelet. Le second substitut du procureur du roi d'Angoulême fut nommé premier substitut à Limoges, et le garde des Sceaux, envoya un de ses protégés au parquet d'Angoulême, où le poste de premier substitut vaqua pendant 2 mois. Cet intervalle fut la lune de miel de Petit Claud. En l'absence du grand Cointet, David fit d'abord une première cuvée sans colle qui donna du papier à journal bien supérieur à celui que les journaux employaient. Puis une seconde cuvée de papier vélin magnifique, destinée aux belles impressions et dont se servit l'imprimerie Cointet pour l'édition du paroissien du diocèse. Les matières avaient été préparées par David lui-même en secret, car il ne voulut pas d'autres ouvriers avec lui que Kolb et Marion. Au retour du grand Cointet, tout changea de face. Il regarda les échantillons des papiers fabriqués, il en fut médiocrement satisfait. « Mon cher ami, dit-il à David, le commerce d'Angoulême, c'est le papier coquille. Il s'agit avant tout de faire de la plus belle coquille possible à 50% au-dessous du prix de revient actuel. » David essaya de fabriquer une cuvée de pâte collée pour coquille, et il obtint un papier rêche comme une brosse, et où la colle se mit en grumelot. Le jour où l'expérience fut terminée, et où David tint une des feuilles, il alla dans un coin. Il voulait être seul à dévorer son chagrin. Mais le grand Cointet vint le relancer, et fut avec lui d'une amabilité charmante. Il consola son associé. « Ne vous découragez pas, dit Cointet. Allez toujours, je suis bon enfant, et je vous comprends. J'irai jusqu'au bout. » Vraiment, dit David à sa femme en revenant dîner avec elle, nous sommes avec de braves gens, et je n'aurais jamais cru le grand Cointet si généreux. Et il raconta sa conversation avec son perfide associé. 3 mois se passèrent en expérience. David couchait à la papeterie. Il observait les effets des diverses compositions de sa pâte. Tantôt, il attribuait son insuccès au mélange du chiffon et de ses matières, et il faisait une cuvée entièrement composée de ses ingrédients. Tantôt, il essayait de coller une cuvée entièrement composée de chiffon. Et poursuivant son œuvre avec une persévérance admirable, et sous les yeux du grand Cointet de qui le pauvre homme ne se défiait plus, il alla, de matière homogène en matière homogène, jusqu'à ce qu'il eût épuisé la série de ses ingrédients combinés avec toutes les différentes colles. Pendant les 6 premiers mois de l'année 1823, David Séchard vécut dans la papeterie avec Kolb. Si ce fut vivre que de négliger sa nourriture, son vêtement et sa personne. Il se battit si désespérément avec les difficultés que c'eût été pour d'autres hommes que les Cointet un spectacle sublime, car aucune pensée d'intérêt ne préoccupait ce hardi lutteur. Il y eut un moment où il ne désira rien que la victoire. Il épiait avec une sagacité merveilleuse les effets si bizarres des substances transformées par l'homme en produits à sa convenance, où la nature est en quelque sorte domptée dans ses résistances secrètes. Et il en déduisit de belles lois d'industrie, en observant qu'on ne pouvait obtenir ces sortes de créations qu'en obéissant au rapport ultérieur des choses, à ce qu'il appela la seconde nature des substances. Enfin, il arriva vers le mois d'août à obtenir un papier collé en cuve, absolument semblable à celui que l'industrie fabrique en ce moment et qui s'emploie comme papier d'épreuve dans les imprimeries, mais dont les sortes n'ont aucune uniformité, dont le collage n'est même pas toujours certain. Ce résultat, si beau en 1823, eu égard à l'état de la papeterie, avait coûté 10 000 francs, et David espérait résoudre les dernières difficultés du problème. Mais il se répandit alors dans Angoulême et dans Lumeau des singuliers bruits. David Séchard ruinait les frères Cointet. Après avoir dévoré 30 000 francs en expérience, il obtenait enfin, disait-on, de très mauvais papiers. Les autres fabricants effrayés s'en tenaient à leurs anciens procédés. Et jaloux des Cointet, ils répandaient le bruit de la ruine prochaine de cette ambitieuse maison. Le grand Cointet, lui, faisait venir les machines à fabriquer le papier continu, tout en laissant croire que ces machines étaient nécessaires aux expériences de David Séchard. Mais le jésuite mêlait à sa pâte les ingrédients indiqués par Séchard, en le poussant toujours à ne s'occuper que du collage en cuve. Et il expédiait à Métivier des milliers de rames de papier à journal. Au mois de septembre, le grand Cointet prit David Séchard à part, et en apprenant de lui qu'il méditait une triomphante expérience, il le dissuada de continuer cette lutte. « Mon cher David, allez à Marsac voir votre femme et vous reposer de vos fatigues. Nous ne voulons pas nous ruiner, dit-il amicalement. Ce que vous regardez comme un grand triomphe n'est encore qu'un point de départ. Nous attendons maintenant avant de nous livrer à de nouvelles expériences. Soyez juste, voyez les résultats. Nous ne sommes pas seulement papetiers, nous sommes imprimeurs, banquiers, et l'on dit que vous nous ruinez. » David Séchard fait un geste d'une naïveté sublime pour protester de sa bonne foi. Ce n'est pas 50 000 francs de jetés dans la Charente qui nous ruineront, dit le grand Cointet en répondant au geste de David. Mais nous ne voulons pas être obligés, à cause des calomnies qui courent sur notre compte, de payer tout comptant. Nous serions forcés d'arrêter nos opérations. Nous voilà dans les termes de notre acte, il faut réfléchir de part et d'autre. Il a raison, se dit David, qui, plongé dans ses expériences en grand, n'avait pas pris garde au mouvement de la fabrique. Et il revint à Marsac, où depuis 6 mois, il allait voir Eve tous les samedis soirs et la quittait le mardi matin. Bien conseillé par le vieux Séchard, Eve avait acheté précisément en avant des vignes de son beau-père, une maison appelée la Vermerie, accompagnée de 3 arpents de jardin et d'un clos de vignes enclavé dans le vignoble du vieillard. Elle vivait avec sa mère et Marion très économiquement, car elle devait 5 000 francs restant à payer sur le prix de cette charmante propriété, la plus jolie de Marsac. La maison, entre cour et jardin, était bâtie en tuffeau blanc, couverte en ardoise et ornée de sculptures, que la facilité de tailler le tuffeau permet de prodiguer sans trop de frais. Le joli mobilier venu d'Angoulême paraissait encore plus joli à la campagne, où personne ne déployait alors dans ces pays le moindre luxe. Devant la façade du côté du jardin, il y avait une rangée de grenadiers, d'orangers et de plantes rares que le précédent propriétaire, un vieux général, mort de la main de M. Marron, cultivait lui-même. Ce fut sous un oranger, au moment où David jouait avec sa femme et son petit Lucien devant son père, que Lucien de Morle apporta lui-même une assignation des frères Cointet à leur associé pour constituer le tribunal arbitral, devant lequel, au terme de leur acte de société, devait se porter leur contestation. Les frères Cointet demandaient la restitution des 6 000 francs et la propriété du brevet, ainsi que les futurs contingents de son exploitation, comme indemnité des exorbitantes dépenses faites par eux sans aucun résultat. « On dit que tu les ruines !» dit le vigneron à son fils. « Eh bien, voilà la seule chose que tu aies faite qui me soit agréable !» Le lendemain, Ève et David étaient à 9 h dans l'antichambre de M. Petitclos, devenu le défenseur de la veuve, le tuteur de l'orphelin, et dont les conseils leur parurent les seuls à suivre. Le magistrat reçut à merveille ses anciens clients et voulut absolument que M. et Mme Séchard lui fissent le plaisir de déjeuner avec lui. « Les Cointet vous réclament 6 000 francs, » dit-il en souriant. « Que devez-vous encore sur le prix de la Vermerie ?»« 5 000 francs, mais j'en ai 2 000, » répondit Ève. « Gardez vos 2 000 francs, » répondit Petit Clos. « Voyons, 5 000, il vous faut encore 10 000 francs pour vous bien installer là-bas. »« Eh bien, dans 2 heures, les Cointet vous apporteront 15 000 francs. » Ève fit un geste de surprise. « Contre votre renonciation à tous les bénéfices de l'acte de société que vous dissoudrez à l'amiable, » dit le magistrat. « Cela vous va-t-il ? » ?»« Et ce sera bien légalement à nous ?» dit Ève. « Bien légalement, » dit le magistrat en souriant. « Les Cointet vous ont fait assez de chagrin. Je veux mettre un terme à leurs prétentions. » « Écoutez, aujourd'hui je suis magistrat, je vous dois la vérité. Eh bien, les Cointet vous jouent en ce moment, mais vous êtes entre leurs mains. » Vous pourriez gagner le procès qu'il vous intente en acceptant la guerre. Voulez-vous être encore au bout de 10 ans à plaider? On multipliera les expertises et les arbitrages, et vous serez soumis aux chances des avis les plus contradictoires. Et, dit-il en souriant, et je ne vous vois point d'avoué pour vous défendre ici. Tenez, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Tout arrangement qui nous donnera la tranquillité me sera bon, dit David. Paul, cria Petit Clos à son domestique. « Allez chercher Monsieur Ségard, mon successeur. Pendant que nous déjeunerons, il ira voir les Cointet, » dit-il à ses anciens clients. « Et dans quelques heures, vous partirez pour Marsac, ruiné mais tranquille. Avec 10 000 francs, vous ferez encore 500 francs de rente, et dans votre jolie petite propriété, vous vivrez heureux. » Au bout de 2 heures, comme Petit Clos l'avait dit, Maître Ségaud revint avec des actes en bonne forme signés des Cointet et avec 15 billets de 1 000 francs. « Nous te devons beaucoup, » dit Séchard à Petit Clos. « Mais je viens de vous ruiner, » répondit Petit Clos à ses anciens clients étonnés. « Je vous ai ruiné, je vous le répète, vous le verrez avec le temps. Mais je vous connais. Vous préférez votre ruine à une fortune que vous auriez peut-être trop tard. »« Nous ne sommes pas intéressés, monsieur. Nous vous remercions de nous avoir donné les moyens du bonheur, » dit Madame Ève. « Et vous nous en trouverez toujours reconnaissants. »« Mon Dieu, ne me bénissez pas, » dit Petit Clos. « Vous me donnez des remords, mais je crois avoir aujourd'hui tout réparé. Si je suis devenu magistrat, c'est grâce à vous. Et si quelqu'un doit être reconnaissant, c'est moi. Adieu. En 1829, au mois de mars, le vieux Séchard mourut, laissant environ 200 000 francs de biens au soleil qui, réunis à la verberie, offrirent une magnifique propriété, très bien régie par Kolb depuis 2 ans. Avec le temps, l'Alsacien changea d'opinion sur le compte du père Séchard, qui, de son côté, prit l'Alsacien en affection en le trouvant, comme lui, sans aucune notion des lettres ni de l'écriture, et facile à griser. L'ancien ours apprit à l'ancien cuirassier à gérer le vignoble et à en vendre les produits. Il le forma dans la pensée de laisser un homme de tête à ses enfants, car dans ses derniers jours, ses craintes furent grandes et puérides sur le sort de ses biens. Il avait pris Courtois, le meunier, pour son confident. « Vous verrez, lui disait-il, comme tout ira chez mes enfants quand je serai dans le trou. Ah, mon Dieu, leur avenir me fait trembler. » David et sa femme trouvèrent près de 100 000 écus en or chez leur père. La voie publique, comme toujours, grossit tellement le trésor du vieux Séchard qu'on l'évaluait à 1 000 000 dans tous les départements de la Charente. Ève et David eurent à peu près 30 000 francs de rente en joignant à cette succession leur petite fortune, car elles attendirent quelque temps pour faire l'emploi de leurs fonds et purent les placer sur l'État à la Révolution de juillet. Après 1830 seulement, le département de la Charente et David Séchard surent à quoi s'en tenir sur la fortune du Grand Cointet. Riche de plusieurs millions, nommé député, le Grand Cointet est pair de France et sera, dit-on, ministre du commerce dans la prochaine combinaison. En 1837, il a épousé la fille d'un des hommes d'État les plus influents de la dynastie, Mademoiselle Popineau, fille de M. Anselme Popineau, député de Paris, maire d'un arrondissement. La découverte de David Séchard a passé dans la fabrication française comme la nourriture dans un grand corps. Grâce à l'introduction de matières autres que le chiffon, la France peut fabriquer le papier à meilleur marché qu'en aucun pays de l'Europe. Mais le papier de Hollande, selon la prévision de David Séchard, n'existe plus. Tôt ou tard, il faudra sans doute ériger une manufacture royale de papier, comme on a créé les Gobelins, Sèvres, la Savonnerie et l'Imprimerie royale, qui jusqu'à présent ont surmonté les coups que leur ont portés de vandales bourgeois. David Séchard, aimé par sa femme et père de 2 enfants, il a eu le bon goût de ne jamais parler de cette tentative. Ève a eu l'esprit de le faire renoncer à l'état d'inventeur. Il cultive les lettres par délassement, mais il mène la vie heureuse et paresseuse du propriétaire faisant valoir. Après avoir dit adieu sans retour à la gloire, il ne saurait avoir d'ambition. Il s'est rangé dans la classe des rêveurs et des collectionneurs. Il s'adonne à l'entomologie et recherche les transformations jusqu'à présent si secrètes des insectes que la science ne connaît que dans leur dernier état. Tout le monde a entendu parler des succès de Petit Claud comme procureur général. Il est le rival du fameux Vinet de Provins, et son ambition est de devenir premier président de la cour royale de Poitiers. Cérizé, condamné à 3 ans de prison pour délit politique en 1827, fut obligé par le successeur de Petit Claud de vendre son imprimerie d'Angoulême. Il a fait beaucoup parler de lui, car il fut un des enfants perdus du Parti libéral. À la Révolution de juillet, il fut nommé sous-préfet et ne put rester plus de 2 mois dans sa sous-préfecture. Après avoir été gérant d'un journal dynastique, il contracta dans la presse des habitudes de luxe. Ses besoins renaissants l'ont conduit à devenir prête-nom dans une affaire de mine en commandite, dont les faits et gestes, le prospectus et les dividendes anticipés, lui ont mérité une condamnation à 2 ans de prison en police correctionnelle. Il a fait paraître une justification dans laquelle il attribue ce résultat à des animosités politiques. Il se dit persécuté par les républicains. 1835-1843.